Chapitre 13. La maison de la rue Saint-Claude, la double existence, le sommeil, la veille. La rue Saint-Claude, dans laquelle le comte de Phénix avait donné rendez-vous au cardinal de Rohan, n'était pas tellement différente à cette époque de ce qu'elle est maintenant, qu'on y puisse retrouver encore les vestiges des localités que nous allons essayer de peindre. Elle aboutissait, comme elle le fait aujourd'hui, à la rue Saint-Louis et au boulevard passant par cette même rue Saint-Louis entre le couvent des filles du Saint-Sacrement et l'hôtel de voisins, tandis qu'aujourd'hui elle sépare à son bout une église et un magasin d'épicerie. Comme aujourd'hui, elle rejoignait le boulevard par une pente assez rapide. Elle était riche de 15 maisons et de 7 lanternes. Deux impasses s'y remarquaient. L'une à gauche, et celle-là formait enclave sous l'hôtel de voisins, l'autre à droite, au nord, sur le grand jardin des filles du Saint-Sacrement. Cette dernière impasse, ombragée à droite par les arbres du couvent, était bordée à gauche par le grand mur gris d'une maison qui s'élevait dans la rue Saint-Claude. Ce mur, semblable au visage d'un cyclope, n'avait qu'un œil, ou, si l'on aime mieux, qu'une fenêtre. Encore cette fenêtre, treillissée, grillagée, barrée, était-elle abominablement noire. Juste au-dessous de cette fenêtre, qui jamais ne s'ouvrait, on le voyait aux toiles d'araignée qui la tapissaient au dehors, juste au-dessous de cette fenêtre, disons-nous, était une porte garnie de larges clous, laquelle indiquait non point qu'on entrait, mais qu'on pouvait entrer de ce côté de la maison. Pas d'habitation dans ce cul-de-sac, deux habitants seulement, un savetier dans une boîte de bois et une ravaudeuse dans un tonneau, tous deux s'abritant sous les acacias du couvent qui, dès 9 heures du matin, versaient une large fraîcheur au sol poudreux. Le soir, la ravaudeuse regagnait son domicile, le savetier cadenassait son palais et rien ne surveillait plus la ruelle, sinon l'œil sombre et morne de cette fenêtre dont nous avons déjà parlé. Outre la porte que nous avons dite, la maison que nous avons entrepris de décrire le plus exactement possible, avait une entrée principale dans la rue Saint-Claude. Cette entrée, qui était une porte cochère avec des sculptures d'un relief qui rappelait l'architecture du temps de Louis XIII, était ornée de ce marteau à tête de griffon que le comte de Phénix avait indiqué comme renseignement positif au cardinal de Rohan. Quant aux fenêtres, elles avaient vu sur le boulevard et dès le matin étaient levées pour le soleil levant. Paris à cette époque et dans ce quartier surtout n'était pas bien sûr. On ne s'étonnait donc pas d'y voir les fenêtres grillées et les murailles hérissées d'artichauts de fer. Nous disons cela parce que le premier étage de notre maison ne ressemblait pas mal à une forteresse. Contre les ennemis, contre les larrons et contre les amants, il offrait des balcons de fer aux 1000 pointes acérées. Un fossé profond saignait le bâtiment du côté du boulevard, et quant à parvenir dans ce fort par la rue, il eût fallu des échelles de 30 pieds pour s'y risquer. Le mur en avait 32 et il masquait, ou plutôt enterrait, la cour d'honneur. Cette maison, devant laquelle tout passant, étonné, inquiet et curieux, s'arrêterait aujourd'hui, n'avait cependant point, en 1770, un aspect bien étrange. Tout au contraire, elle était en harmonie avec le quartier, et si les bons habitants de la rue Saint-Louis et les habitants non moins bons de la rue Saint-Claude fuyaient les alentours de cet hôtel, ce n'était point à cause de l'hôtel lui-même, car sa réputation était encore intacte, mais à cause du boulevard désert de la porte Saint-Louis, assez mal famé, et du pont aux choux, dont les deux arches, jetées sur un égout, paraissaient à tout Parisien, un peu au courant des traditions, les infranchissables colonnes de Cadès. En effet, le boulevard de ce côté ne conduisait à rien qu'à la Bastille. On n'y voyait pas 10 maisons en l'espace d'un quart de lieue, aussi l'édilité n'ayant pas jugé à propos d'éclairer ce rien, ce vide, ce néant, passé 8 heures l'été et 4 heures l'hiver, c'était le chaos. Plus pour les voleurs. Ce fut cependant, par ce boulevard, le soir, vers 9 heures, que rentra un carrosse rapide, 3 quarts d'heure environ après la visite de Saint-Denis. Les armes du comte de Phénix décoraient les panneaux de ce carrosse. Quant au comte, il précédait le carrosse à 20 pas, monté sur Djérit, qui faisait siffler sa longue queue en aspirant la chaleur opaque du pavé poudreux. Dans le carrosse, aux rideaux fermés, reposait Lorenza, endormie sur des coussins. La porte s'ouvrit, comme par enchantement, devant le bruit des roues, et le carrosse, après s'être engouffré dans les noires profondeurs de la rue Saint-Claude, disparut dans la cour de la maison que nous venons de décrire. La porte se referma derrière lui. Il n'était certes pas besoin, cependant, d'un si grand mystère. Personne n'était là pour voir rentrer le comte de Phénix et pour le gêner dans quelque chose que ce fût, eût-elle rapporté de Saint-Denis le trésor abbatial dans les coffres de sa voiture. Maintenant, quelques mots sur l'intérieur de cette maison qu'il est important pour nous de faire connaître à nos lecteurs, notre intention étant de les y ramener plus d'une fois. Dans cette cour dont nous parlions et dont l'herbe vivace jouant comme une mine continue essayait par un travail incessant de disjoindre les pavés, on voyait à droite les écuries, à gauche les remises et au fond un perron conduisant vers une porte à laquelle on montait indifféremment d'un côté ou de l'autre par un double escalier de 12 marches. Par le bas, l'hôtel, du moins en ce qui était accessible, se composait d'une immense antichambre, d'une salle à manger, remarquable par un grand luxe d'argenterie entassé dans des dressoirs, et enfin d'un salon qui paraissait meublé tout récemment, exprès peut-être pour recevoir ses nouveaux locataires. En sortant de ce salon et en rentrant dans l'antichambre où se trouvait en face d'un grand escalier conduisant au premier étage, ce premier étage se composait de 3 chambres de maître. Mais un géomètre habile, en mesurant de l'œil la circonférence de l'hôtel et en calculant le diamètre, aurait pu s'étonner de trouver si peu de logements dans une pareille étendue. C'est que, dans cette première maison apparente, il existait une seconde habitation cachée et connue seulement de celui qui l'habitait. En effet, dans l'antichambre, à côté d'une statue du dieu Harpocrate, qui, les doigts sur les lèvres, semblait recommander le silence dont il est l'emblème, jouait, mise en mouvement par un ressort, une petite porte perdue dans les ornements d'architecture. Cette porte donnait accès à un escalier pris dans un corridor et de la largeur de ce corridor qui, à la hauteur de l'autre premier étage à peu près, conduisait à une petite chambre prenant son jour par 2 fenêtres grillées donnant sur une cour intérieure. Cette cour intérieure était la boîte qui renfermait et cachait à tous la seconde maison. La chambre à laquelle conduisait cet escalier était évidemment une chambre d'homme. Les descentes de lit et les tapis placés devant les fauteuils et les canapés étaient les plus magnifiques fourrures que fournissent l'Afrique et l'Inde. C'étaient des peaux de lion, de tigre et de panthère, aux yeux étincelants et aux dents encore menaçantes. Les murailles, tendues en cuir de cordoue, du dessin le plus large et le plus harmonieux, étaient décorées d'armes de toute espèce, depuis le tomahawk du Huron jusqu'au creek du Malais, depuis l'épée en croix des anciens chevaliers jusqu'au sanghiar de l'Arabe, depuis l'arquebuse incrustée d'ivoire du XVIe siècle jusqu'au fusil damasquiné d'or du XVIIIe. On eût inutilement cherché à cette chambre une issue autre que celle de l'escalier, peut-être y en avait-il une ou plusieurs, mais inconnue, mais invisible. Un domestique allemand de 25 à 30 ans, le seul qu'on eût vu depuis plusieurs jours errer dans la vaste maison, referma au verrou la porte cochère et, ouvrant la porte de la voiture pendant que le cocher, impassible, dételait déjà les chevaux, il tira du carrosse Lorenza endormie et la porta entre ses bras jusqu'à l'antichambre. Là, il la déposa sur une table couverte d'un tapis rouge et abaissa sur ses pieds, avec discrétion, le long voile blanc qui enveloppait la jeune femme. Puis il sortit pour allumer aux lanternes de la voiture un chandelier à 7 branches qu'il rapporta tout enflammé. Mais pendant cet intervalle, si court qu'il eût été, Lorenza avait disparu. En effet, derrière le valet de chambre, le comte de Phénix était entré. Il avait pris Lorenza entre ses bras à son tour. Il l'avait portée par la porte dérobée et par l'escalier secret dans la chambre des armes, après avoir avec soin refermé les 2 portes derrière lui. Une fois là, du bout du pied, il pressa un ressort placé dans l'angle de la cheminée à haut manteau. Aussitôt, une porte, qui n'était autre que la plaque de cette cheminée, roula sur 2 gonds silencieux, et le comte, passant sous le chambranle, disparut, refermant avec le pied, comme il l'avait ouverte, cette porte mystérieuse. De l'autre côté de la cheminée, il avait trouvé un second escalier, et après avoir monté 15 marches tapissées de velours d'Utrecht, il avait atteint le seuil d'une chambre, élégamment tendue de satin broché de fleurs, aux couleurs si vives et aux formes si bien dessinées qu'on eût pu les prendre pour des fleurs naturelles. Le meuble pareil était de bois doré, 2 grands armoires d'écaille incrustées de cuivre, un clavecin et une toilette en bois rose. Un beau lit tout diapré, des porcelaines de Sèvres, composaient la partie indispensable du mobilier. Des chaises, des fauteuils et des sofas, disposés avec symétrie dans un espace de 30 pieds carrés, ornaient le reste de l'appartement qui, au reste, ne se composait que d'un cabinet de toilette et d'un boudoir attenant à la chambre. 2 fenêtres masquées par d'épais rideaux donnaient le jour à cette chambre, mais comme il faisait nuit à cette heure, les rideaux n'avaient rien à cacher. Le boudoir et le cabinet de toilette n'avaient aucune ouverture. Des lampes consumant une huile parfumée les éclairaient le jour comme la nuit et, s'enlevant à travers le plafond, étaient entretenues par des mains invisibles. Dans cette chambre, pas un bruit, pas un souffle. On eût dit être à 100 lieues du monde. Seulement, l'or y brillait de tous côtés, de belles peintures souriaient sur les murailles, et de longs cristaux de bohême aux facettes chatoyantes s'illuminaient comme des yeux ardents. Là, après avoir déposé Lorenza sur un sofa, le comte, mal satisfait de la lumière tremblante du boudoir, fit jaillir le feu de cet étui d'argent qui avait tant préoccupé Gilbert et alluma sur la cheminée 2 candélabres chargés de bougies roses. Alors il revint vers Lorenza et, mettant sur une pile de coussins un genou en terre devant elle, « Lorenza, dit-il. » La jeune femme, à cet appel, se souleva sur un coude, quoique ses yeux restassent fermés, mais elle ne répondit point. Lorenza, répéta-t-il, dormez-vous de votre sommeil ordinaire ou du sommeil magnétique? Je dors du sommeil magnétique, répondit Lorenza. Alors, si je vous interroge, vous pourrez répondre. Je crois que oui. Bien. Il se fit un instant de silence, puis le comte de Phénix continua. Regardez dans la chambre de Madame Louise que nous venons de quitter, il y a 3 quarts d'heure à peu près. J'y regarde, répondit Lorenza. Et y voyez-vous? Oui. Le cardinal de Rohan s'y trouve-t-il encore? Je ne l'y vois pas. Que fait la princesse? Elle prie avant de se mettre au lit. Regardez dans les corridors et dans les cours du couvent, si vous voyez son éminence. Je ne la vois pas. Regardez à la porte si sa voiture y est encore. Elle n'y est plus. Suivez la route que nous avons suivie. Je la suis. Voyez-vous des carrosses sur la route? Oh oui, plusieurs. Et dans ces carrosses, reconnaissez-vous le cardinal? Non. Rapprochez-vous de Paris. Je m'en approche. Encore. Oui. Encore. Ah, je le vois. Où cela? À la barrière. Est-il arrêté? Il s'arrête en ce moment. Un valet de pied descend de derrière la voiture. Il lui parle. Il va lui parler. Écoutez, Lorenza, il est important que je sache ce que le cardinal a dit à cet homme. Vous ne m'avez pas ordonné d'écouter à temps. Mais attendez, attendez. Le valet de chambre parle au cocher. Que lui dit-il ? Rue Saint-Claude, au Marais, par le boulevard. Bien, Lorenza, merci. Le comte écrivit quelques mots sur un papier, plia le papier autour d'une petite plaque de cuivre, destinée sans doute à lui donner du poids, tira le cordon d'une sonnette, poussa un bouton, au-dessous duquel s'ouvrait une gueule, laissa glisser le billet dans l'ouverture, qui se referma après l'avoir englouti. C'était la manière dont le comte, lorsqu'il était enfermé dans les chambres intérieures, correspondait avec Fritz. Puis, revenant à Lorenza, « Merci, répéta-t-il. « Tu es donc content de moi ? » demanda la jeune femme. « Oui, chère Lorenza. Eh bien, ma récompense alors ?» Balsamo sourit et approcha ses lèvres de celles de Lorenza, dont tout le corps frissonna au voluptueux contact. « Oh, Joseph, Joseph » murmura-t-elle avec un soupir presque douloureux. « Joseph, que je t'aime !» Et la jeune femme étendit ses deux bras pour serrer Balsamo contre son cœur. Balsamo se recula vivement, les deux bras de Lorenza ne saisirent que l'air et retombèrent en croix sur sa poitrine. « Lorenza, dit Balsamo, veux-tu causer avec ton amie ?»« Oui, oui, dit-elle, mais parle-moi toi-même souvent, j'aime tant ta voix. » « Lorenza, tu m'as dit souvent que tu serais bien heureuse si tu pouvais vivre avec moi, séparée du monde entier. « Oui, ce serait le bonheur. »« Eh bien, j'ai réalisé ton vœu, Lorenza. Dans cette chambre, nul ne peut nous poursuivre, nul ne peut nous attendre. Nous sommes seuls, bien seuls. »« Ah, tant mieux. Dis-moi si cette chambre est de ton goût. »« Ordonne-moi de voir, alors. »« Vois. »« Oh, la charmante chambre, dit-elle. » « Elle te plaît donc ?» demanda le comte avec douceur. « Oui, oui, oh, voilà mes fleurs favorites, mes héliotropes vanille, mes roses pourpres, mes jasmins de la Chine. Ah, merci, mon tendre Joseph, que tu es bon. Je fais ce que je peux pour te plaire, Lorenza. Oh, tu fais 100 fois plus que je ne mérite. Tu en conviens donc ? Oui, tu avoues donc que tu étais bien méchante. Ah, bien méchante, oh oui, mais tu me pardonnes, n'est-ce pas ? Je te pardonnerai quand tu m'auras expliqué cet étrange mystère contre lequel je lutte depuis que je te connais. Écoute, Balsamo, c'est qu'il y a en moi 2 Lorenza bien distinctes, une qui t'aime et une qui te déteste, comme il y a en moi 2 existences opposées, l'une pendant laquelle je m'absorbe toutes les joies du paradis, l'autre pendant laquelle j'éprouve tous les tourments de l'enfer. « Et ces 2 existences sont l'une le sommeil et l'autre la veille, n'est-ce pas ?»« Oui. Et tu m'aimes quand tu dors et tu me détestes quand tu veilles. »« Oui. Et pourquoi cela ?»« Je ne sais. Tu dois le savoir. »« Non. Cherche bien. Regarde en toi-même. Sonde ton propre cœur. »« Ah oui, je comprends maintenant. Parle. » Quand Lorenza veille, c'est la romaine, c'est la fille superstitieuse de l'Italie. Elle croit que la science est un crime et l'amour un péché. Alors, elle a peur du savant Balsamo, elle a peur du beau Joseph. Son confesseur lui a dit qu'en t'aimant, elle perdrait son âme et elle te fuira toujours, sans cesse, jusqu'au bout du monde. Et quand Lorenza dort, oh, c'est autre chose alors, elle n'est plus romaine, elle n'est plus superstitieuse, elle est femme. Alors elle voit dans le cœur et dans l'esprit de Balsamo, elle voit que ce génie rêve des choses sublimes. Alors elle comprend combien elle est peu de choses comparée à lui, et elle voudrait vivre et mourir près de lui afin que l'avenir prononçât tout bas le nom de Lorenza en même temps qu'il prononcera tout haut le nom de Cagliostro. C'est donc sous ce nom que je deviendrai célèbre ? Oui, oui, c'est sous ce nom. « Ah, chère Lorenza, tu aimeras donc ce nouveau logement. Il est bien plus riche que tous ceux que tu m'as déjà donnés, mais ce n'est pas pour cela que je l'aime. Et pourquoi l'aimes-tu ? Parce que tu me promets de l'habiter avec moi. Ah, quand tu dors, tu sais donc bien que je t'aime ardemment, avec passion. » La jeune femme ramena contre elle ses 2 genoux qu'elle prit dans ses bras, et tandis qu'un pâle sourire effleurait ses lèvres, « Oui, je le vois, dit-elle, oui, je le vois, et cependant, ajouta-t-elle avec un soupir, il y a quelque chose que tu aimes plus que Lorenza, Et quoi donc ? Demanda Balsamo en tressaillant. Ton rêve ? Dis mon œuvre. Ton ambition ? Dis ma gloire. Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Le cœur de la jeune femme s'oppressa, des larmes silencieuses coulèrent à travers ses paupières fermées. Que vois-tu donc ? Demanda Balsamo, étonné de cette effrayante lucidité qui parfois l'épouvantait lui-même. Oh, je vois des ténèbres parmi lesquelles glissent des fantômes. Il y en a qui tiennent à la main leur tête couronnée. Et toi, toi, tu es au milieu de tout cela, comme un général au-dessus de la mêlée. Il me semble que tu as les pouvoirs de Dieu. Tu commandes et l'on obéit. Eh bien, dit Balsamo avec joie, cela ne te rend pas fier de moi ? Oh, tu es assez bon pour ne pas être grand. D'ailleurs, je me cherche dans tout ce monde qui t'entoure et je ne me vois pas. Ouf, je n'y serai plus, je n'y serai plus, murmura-t-elle tristement. Et où seras-tu ? Je serai morte. Balsamo frissonna. Toi, morte, ma Lorenza, s'écria-t-il. Non, non, nous vivrons ensemble et pour nous aimer. Tu ne m'aimes pas ? Oh, si fait ! Pas assez, du moins, pas assez, s'écria-t-elle en saisissant de ses deux bras la tête de Joseph. Pas assez, ajouta-t-elle en appuyant sur son front des lèvres ardentes qui multipliaient leurs caresses. Que me reproches-tu ? Ta froideur, vois, tu te recules. Est-ce que je te brûle avec mes lèvres que tu fuis devant mes baisers ? Oh, rends-moi ma tranquillité de jeune fille, mon couvent de Subiaco, les nuits de ma cellule solitaire, rends-moi les baisers que tu m'envoyais sur l'aile des brises mystérieuses et que, dans mon sommeil, je voyais venir à moi comme des sylphes aux ailes d'or et qui fondaient mon âme dans les délices. Lorenza, Lorenza, oh, ne me fuis pas, Balsamo, ne me fuis pas, je t'en supplie, donne-moi ta main, que je la presse, tes yeux, que je les embrasse, je suis ta femme, enfin. « Oui, oui, ma Lorenza chérie, oui, tu es ma femme bien-aimée. Et tu souffres que je passe ainsi près de toi, inutile, délaissée. Tu es une fleur chaste et solitaire dont le parfum t'appelle et tu repousses son parfum. Ah, je le sens bien, je ne suis rien pour toi. Tu es tout au contraire, ma Lorenza, puisque c'est toi qui fais ma force, ma puissance, mon génie, puisque sans toi je ne pourrais plus rien. » Cesse donc de m'aimer de cette fièvre insensée qui trouble les nuits des femmes de ton pays. Aime-moi, comme je t'aime, moi. Oh, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amour que tu as pour moi. C'est au moins tout ce que je demande de toi, car tu me donnes tout ce que je désire, car cette possession de l'âme me suffit pour être heureux. Heureux, dit Lorenza d'un air de mépris, tu appelles cela être heureux? Oui, car pour moi, être heureux, c'est être grand. Lorenza poussa un long soupir. Ah, si tu savais ce que c'est, ma douce Lorenza, que de lire à découvert dans le cœur des hommes pour les dominer avec leurs propres passions. Oui, je vous sers à cela, je le sais bien. Et ce n'est pas tout. Tes yeux lisent pour moi le livre fermé de l'avenir. Ce que je n'ai pu apprendre après 20 années de labeur et de misère, toi, ma douce colombe, innocente et pure, quand tu veux, tu me l'apprends. Mes pas sur lesquels tant d'ennemis jettent des embûches, tu les éclaires. Mon esprit, dont dépend ma vie, ma fortune, ma liberté, tu le dilates comme l'œil du lynx qui voit pendant la nuit. Tes beaux yeux, en se fermant au jour de ce monde, s'ouvrent sur une clarté surhumaine. Ils veillent pour moi. C'est toi qui me fais libre, qui me fais riche, qui me fais puissant. Et toi, en échange, tu me fais malheureuse, s'écria Lorenza, tout éperdue d'amour. Et plus avide que jamais, elle l'entoura de ses beaux bras Balsamo, qui lui-même, tout imprégné de la flamme électrique, ne résistait plus que faiblement. Il fit cependant un effort et dénoua le lien vivant qui l'enveloppait. « Lorenza, Lorenza, dit-il, par pitié, je suis ta femme et non ta fille. Aime-moi comme un époux aime sa femme et non comme un père m'aimait. » « Lorenza, dit Balsamo, tout frémissant lui-même de désir, ne me demande pas, je t'en supplie, un autre amour que celui que je te puis donner. » « Mais, s'écria la jeune femme en levant ses deux bras désespérés au ciel, ce n'est pas de l'amour cela, ce n'est pas de l'amour !»« Oh si, c'est de l'amour, mais de l'amour saint et pur, comme on le doit à une vierge. » La jeune femme fit un brusque mouvement qui déroula les longues nattes de ses cheveux noirs. Son bras, si blanc et si nerveux à la fois, s'élança presque menaçant vers le comte. Ah, oh, que signifie donc cela? Dit-elle d'une voix brève et désolée. Et pourquoi m'as-tu fait abandonner mon pays, mon nom, ma famille, tout, jusqu'à mon Dieu? Car ton Dieu ne ressemble pas au mien. Pourquoi as-tu pris sur moi cet empire absolu qui fait de moi ton esclave, qui fait de ma vie ta vie, de mon sang ton sang? Entendu bien, pourquoi as-tu fait toutes ces choses si c'est pour m'appeler la Vierge Lorenza? Balsamo soupira à son tour, écrasé sous l'immense douleur de cette femme au cœur brisé. « Hélas, dit-il, c'est ta faute, ou plutôt la faute de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il fait de toi cet ange au regard infaillible à l'aide duquel je soumettrai l'univers? Pourquoi lis-tu dans tous les cœurs au travers de leur enveloppe matérielle comme on lit une page derrière une vitre? C'est parce que tu es l'ange de pureté, Lorenza. C'est parce que tu es le diamant sans tache. C'est parce que rien ne fait ombre en ton esprit. » C'est que Dieu, voyant cette forme immaculée, pure et radieuse comme celle de la Sainte Mère, veut bien y laisser descendre, quand je l'invoque, au nom des éléments qu'il a faits, son Saint-Esprit, qui d'ordinaire plane au-dessus des êtres vulgaires et sordides, faute de trouver en eux une place sans souillure sur laquelle ils puissent se reposer. Vierge, tu es voyante, ma Lorenza. Femme, tu ne serais plus que matière. « Et tu n'aimes pas mieux mon amour ?» s'écria Lorenza en frappant avec rage dans ses deux belles mains qui s'empourprèrent. « Tu n'aimes pas mieux mon amour que tous les rêves que tu poursuis, que toutes les chimères que tu te crées ?» Et tu me condamnes à la chasteté de la religieuse avec les tentations de l'ardeur inévitable de ta présence. Ah, Joseph, Joseph, tu commets un crime, c'est moi qui te le dis. « Ne blasphème pas, ma Lorenza, s'écria Balsamo, car comme toi je souffre. Tiens, tiens, lis dans mon cœur, je le veux, et dis encore que je ne t'aime pas. Mais alors, pourquoi résistes-tu à toi-même? Parce que je veux t'élever avec moi sur le trône du monde. » « Oh, ton ambition, Balsamo, murmura la jeune femme, ton ambition te donnera-t-elle jamais ce que te donne mon amour ?» Éperdu à son tour, Balsamo laissa aller sa tête sur la poitrine de Lorenza. « Oh oui, oui, s'écria-t-elle, oui, je vois enfin que tu m'aimes plus que ton ambition, plus que ta puissance, plus que ton espoir. Oh, tu m'aimes comme je m'aime, enfin !» Balsamo essaya de secouer le nuage enivrant qui commençait à noyer sa raison, mais son effort fut inutile. « Oh, puisque tu m'aimes tant, dit-il, épargne-moi !» Lorenza n'écoutait plus. Elle venait de faire de ses deux bras une de ces invincibles chaînes plus tenaces que des crampons d'acier, plus solides que le diamant. « Je t'aime comme tu voudras, dit-elle, sœur ou femme, vierge ou épouse, mais un baiser, un seul. » Balsamo était subjugué, vaincu, brisé par tant d'amour, sans force pour résister davantage, les yeux ardents, la poitrine haletante, la tête renversée, il s'approchait de Lorenza, aussi invinciblement attiré que l'est le fer vers l'aimant. Ses lèvres allaient toucher les lèvres de la jeune femme. Soudain, la raison lui revint. Ses mains fouettèrent l'air chargé d'enivrantes vapeurs. « Lorenza, s'écria-t-il, réveillez-vous, je le veux !» Aussitôt, cette chaîne qu'il n'avait pu briser se relâcha. Les bras qui l'enlaçaient se détendirent, le sourire ardent qui entourait les lèvres desséchées de Lorenza s'effaça, languissant, comme un reste de vie au dernier soupir. Ses yeux fermés s'ouvrirent, ses pupilles dilatées se resserrèrent. Elle secoua les bras avec effort, fit un grand mouvement de lassitude et retomba, étendue mais éveillée, sur le sofa. Un Balsamo, assis à trois pas d'elle, poussa un profond soupir. « Adieu le rêve » murmura-t-il, « adieu le bonheur ». Aussitôt que le regard de Lorenza eut recouvré sa puissance, elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. Après avoir examiné chaque chose, sans qu'aucun de ces mille riens qui font la joie des femmes parût dérider la gravité de sa physionomie, la jeune femme arrêta ses yeux sur Balsamo avec un tressaillement douloureux. Balsamo était assis et attentif à quelques pas d'elle. « Encore vous ! » fit-elle en se reculant, et tous les signes de l'effroi apparurent sur sa physionomie. Ses lèvres pâlirent, la sueur perla à la racine de ses cheveux. Balsamo ne répondit point. « Où suis-je » demanda-t-elle.
Vous savez d'où vous venez, madame, dit Balsamo. Cela doit vous conduire naturellement à deviner où vous êtes.
Oui, vous avez raison de rappeler mes souvenirs. Je me souviens, en effet, je sais que j'ai été persécuté par vous, poursuivi par vous, arraché par vous, au bras de la royale intermédiaire que j'avais choisie entre Dieu et moi.
Alors, vous savez aussi que cette princesse, toute puissante qu'elle est, n'a pu vous défendre.
Oui, vous l'avez vaincue par quelque violence magique, s'écria Lorenza en joignant les mains. Oh mon Dieu, délivrez-moi de ce démon!
« Où voyez-vous en moi un démon, madame ?» dit Balsamo en haussant les épaules.
« Une fois pour toutes, laissez donc, je vous prie, ce bagage de croyances puériles à portée de Rome et tout ce fatras de superstitions absurdes que vous avez traîné à votre suite depuis votre sortie du couvent.
« Oh, mon couvent, qui me rendra mon couvent ?» s'écria Lorenza en fondant en larmes.
« En effet, dit Balsamo, c'est une chose bien regrettable qu'un couvent. »
Lorenza s'élança vers une des fenêtres, elle en ouvrit les rideaux, puis après les rideaux, elle leva l'espagnolette et sa main étendue s'arrêta sur un de ces barreaux épais et recouverts d'un grillage de fer caché sous des fleurs qui lui faisait perdre beaucoup de sa signification sans rien lui ôter de son efficacité.
« Prison pour prison, dit-elle, j'aime mieux celle qui conduit au ciel que celle qui mène à l'enfer. »
et elle appuya furieusement ses poings délicats sur les tringles.
« Si vous étiez plus raisonnable, Lorenza, vous ne trouveriez à votre fenêtre que des fleurs sans barreaux.
N'étais-je pas raisonnable quand vous m'enfermiez dans cette autre prison roulante avec ce vampire que vous appelez Altotas ? Non. Et cependant, vous ne me perdiez pas de vue. Cependant, quand vous me quittiez, vous souffliez en moi cet esprit qui me possède et que je ne puis combattre. Où est-il, cet effrayant vieillard qui me fait mourir de terreur, là, dans quelque coin, n'est-ce pas ? Taisons-nous tous deux et nous entendrons sortir de terre sa voix de fantôme.
Vous vous frappez l'imagination comme un enfant, madame, dit Balsamo. Altotas, mon précepteur, mon ami, mon second père, est un vieillard inoffensif qui ne vous a jamais vu, jamais approché, ou qui, s'il vous a approché ou vu, n'a même pas fait attention à vous, lancé qu'il est à la poursuite de son œuvre.
Son œuvre, murmura Lorenza. Et quelle est son œuvre, dites ?
Il cherche l'élixir de vie, ce que tous les esprits supérieurs ont cherché depuis 6000 ans.
Et vous, que cherchez-vous ?
Moi, la perfection humaine.
Oh, les démons, dit Lorenza en levant les mains au ciel.
Bon, dit Balsamo en se levant, voilà votre accès qui va vous reprendre.
Mon accès ?
Oui, votre accès. Il y a une chose que vous ignorez, Lorenza, c'est que votre vie est séparée en deux périodes égales. Pendant l'une, vous êtes douce, bonne et raisonnable. Pendant l'autre, vous êtes folle.
Et c'est sous le vain prétexte de cette folie que vous m'enfermez ?
Hélas, il le faut bien.
Oh, soyez cruel, barbare, sans pitié. Emprisonnez-moi, tuez-moi, mais ne soyez pas hypocrite et n'ayez pas l'air de me plaindre en me déchirant.
« Voyons, dit Balsamo, sans se fâcher et même avec un sourire bienveillant, est-ce une torture que d'habiter une chambre élégante, commode ?
Des grilles de tous côtés, des barreaux, pas d'air !»«
Ces grilles sont là dans l'intérêt de votre vie, entendez-vous, Lorenza ?»«
Oui, s'écria-t-elle, il me fait mourir à petit feu et il me dit qu'il songe à ma vie et qu'il prend intérêt à ma vie !»
Balsamo s'approcha de la jeune femme et avec un geste amical, il voulut lui prendre la main. Mais elle, en se reculant comme si un serpent l'eût effleuré,
« Oh, ne me touchez point !» dit-elle.
« Vous me haïssez donc, Lorenza ? Demandez au patient s'il hait son bourreau.
« Lorenza, Lorenza, c'est parce que je ne veux pas le devenir que je vous ôte un peu de votre liberté. Si vous pouviez aller et venir à votre volonté, qui peut savoir ce que vous feriez dans un de vos instants de folie ?
Ce que je ferai, oh, que je sois libre un jour, et vous verrez.
Lorenza, vous traitez mal l'époux que vous avez choisi devant Dieu.
Moi, vous avoir choisi, jamais !
Vous êtes ma femme, cependant. »
Voilà où est l'œuvre du démon.
Pauvre insensé, dit Balsamo avec un tendre regard.
Mais je suis romaine, murmura Lorenza, et un jour, je me vengerai.
Balsamo secoua doucement la tête. « N'est-ce pas que vous dites cela pour m'effrayer, Lorenza ?» demanda-t-il en souriant. « Non, non, je le ferai comme je le dis. » « Femme chrétienne, que dites-vous ? » s'écria Balsamo avec une autorité surprenante. « Votre religion, qui dit de rendre le bien pour le mal, n'est donc qu'hypocrisie, puisque vous prétendez suivre cette religion et que vous rendez, vous, le mal pour le bien ?» Lorenza parut un instant frappée de ces paroles. « Oh, dit-elle, ce n'est pas une vengeance que de dénoncer à la société ses ennemis, c'est un devoir. » « Si vous me dénoncez comme un nécromant, comme un sorcier, ce n'est pas la société que j'offense, c'est Dieu que je brave. Et pourquoi alors, si je brave Dieu, Dieu qui n'a qu'un signe à faire pour me foudroyer, ne se donne-t-il pas la peine de me punir et laisse-t-il ce soin aux hommes, faibles comme moi, soumis à l'erreur, comme moi ?»« Il oublie, il tolère, murmura la jeune femme, il attend que vous vous réformiez. » Balsamo sourit. « Et en attendant, dit-il, il vous conseille de trahir votre ami, votre bienfaiteur, votre époux. Mon époux, ah, Dieu merci, jamais votre main n'a touché la mienne sans me faire rougir et frissonner. Et vous le savez, j'ai toujours généreusement cherché à vous épargner ce contact. C'est vrai, vous êtes chaste et c'est la seule consolation qui soit accordée à mes malheurs. Oh, s'il m'eût fallu subir votre amour !» « Oh, mystère, mystère impénétrable !» murmura Balsamo, qui semblait suivre sa pensée plutôt que répondre à celle de Lorenza. « Terminons, dit Lorenza, pourquoi me prenez-vous ma liberté ?»« Pourquoi, après me l'avoir donnée volontairement, voulez-vous la reprendre ? Pourquoi fuyez-vous celui qui vous protège ? Pourquoi allez-vous demander appui à une étrangère contre celui qui vous aime ?» Pourquoi menacez-vous sans cesse celui qui ne vous menace jamais de révéler des secrets qui ne sont point à vous et dont vous ignorez la portée ? Oh, dit Lorenza, sans répondre à l'interrogation, le prisonnier qui veut fermement redevenir libre le redevient toujours, et vos barreaux ne m'arrêteront pas plus que ne l'a fait votre cage ambulante. Ils sont solides, heureusement pour vous, Lorenza, dit Balsamo avec une menaçante tranquillité. « Dieu m'enverra quel orage comme celui de la Lorraine, quelque tonnerre qui les brisera. Croyez-moi, priez Dieu de n'en rien faire, croyez-moi, défiez-vous de ces exaltations romanesques, Lorenza, je vous parle en ami, écoutez-moi. » Il y avait tant de colère concentrée dans la voix de Balsamo, tant de feu sombre couvé dans ses yeux, sa main blanche et musculeuse se crispait d'une façon si étrange à chacune des paroles qu'il prononçait lentement et presque solennellement, que Lorenza, étourdie au plus fort de sa rébellion, écouta malgré elle. « Voyez-vous, mon enfant, » continua Balsamo sans que sa voix eût rien perdu de sa menaçante douceur, « j'ai tâché de rendre cette prison habitable pour une reine. Fussiez-vous reine, rien ne vous y manquera. Calmez donc cette exaltation folle. Vivez ici comme vous eussiez vécu dans votre couvent. Habituez-vous à ma présence, aimez-moi comme un ami, comme un frère. J'ai de grands chagrins, je vous les confierai. D'effroyables déceptions, parfois un sourire de vous me consolera. Plus je vous verrai bonne, attentive, patiente, plus j'amincirai les barreaux de votre cellule. Qui sait, dans un an ou dans 6 mois, peut-être serez-vous aussi libre que moi, en ce sens que vous ne voudrez plus me voler votre liberté. » « Non, non !» s'écria Lorenza, qui ne pouvait comprendre qu'une résolution si terrible s'allia avec une si douce voix. « Non, plus de promesses, plus de mensonges. Vous m'avez enlevé, enlevé violemment. Je suis à moi et à moi seul. Rendez-moi donc au moins à Dieu, si vous ne voulez pas me rendre à moi-même. Jusqu'ici, j'ai toléré votre despotisme, parce que je me souviens que vous m'avez arraché à des brigands qui allaient me déshonorer. Mais déjà, cette reconnaissance s'affaiblit. » Encore quelques jours de cette prison qui me révolte, et je ne serai plus votre obligé. Et plus tard, prenez garde, j'en arriverai peut-être à croire que vous aviez avec ces brigands des rapports mystérieux. « Me feriez-vous l'honneur de voir en moi un chef de bandit ?» demanda ironiquement Balsamo. « Je ne sais, mais du moins ai-je surpris des signes, des paroles ?» « Vous avez surpris des signes, des paroles ?» s'écria Balsamo en pâlissant. « Oui, oui, dit Lorenza, je les ai surpris, je les sais, je les connais. »« Mais vous ne les direz jamais. vous ne les redirez à âme qui vive, vous les enfermerez au plus profond de votre souvenir afin qu'ils y meurent étouffés. Oh, tout au contraire, s'écria Lorenza, heureuse comme on l'est dans la colère de trouver enfin l'endroit vulnérable de son antagoniste, je les garderai pieusement dans ma mémoire, ces mots, je les redirai tout bas tant que je serai seule et tout haut à la première occasion. Je les ai déjà dit.
Et à qui ? Demanda Balsamo.
À la princesse.
Eh bien, Lorenza, écoutez bien ceci, dit Balsamo en enfonçant ses doigts dans sa chair pour en éteindre l'effervescence et pour refouler son sang révolté.
Si vous les avez dit, vous ne les redirez plus. Vous ne les redirez plus parce que je tiendrai les portes closes, parce que j'aiguiserai les pointes de ces barreaux, parce que j'élèverai, s'il le faut, les murs de cette cour aussi haut que ceux de Babel.
« Je vous l'ai dit, Balsamo, s'écria Lorenza, on sort de toute prison, surtout quand l'amour de la liberté se renforce de la haine du tyran. »«
À merveille, sortez-en donc, Lorenza, mais écoutez ceci. » Vous n'avez plus que deux fois à en sortir. À la première, je vous châtierai si cruellement que vous répandrez toutes les larmes de votre corps. À la seconde, je vous frapperai si impitoyablement que vous répandrez tout le sang de vos veines.
Mon Dieu, il m'assassinera !» hurla la jeune femme, arrivée au dernier paroxysme de la colère, en s'arrachant les cheveux et en se roulant sur le tapis.
Balsamo la considéra un instant avec un mélange de colère et de pitié. Enfin, la pitié parut l'emporter sur la colère.
« Voyons, Lorenza, dit-il, revenez à vous, soyez calme. Un jour viendra où vous serez également récompensé de tout ce que vous aurez souffert ou cru souffrir. »«
Enfermé, enfermé !» cria Lorenza sans écouter Balsamo.
« Patience, frappez !
C'est un temps d'épreuve. »
« Folle, folle !
Vous guérirez.
Oh, jetez-moi tout de suite dans un hôpital de fous. Enfermez-moi tout à fait dans une vraie prison. »
« Non pas, vous m'avez trop bien prévenu de ce que vous feriez contre moi. »«
Eh bien, hurla Lorenza, la mort alors, la mort tout de suite !»
Et se relevant avec la souplesse et la rapidité d'une bête fauve, elle s'élança pour se briser la tête contre la muraille. Mais Balsamo n'eut qu'à étendre la main vers elle et à prononcer du fond de sa volonté, bien plus encore que de ses lèvres, un seul mot pour l'arrêter en route.
Lorenza, lancée, s'arrêta tout à coup, chancela et tomba endormie dans les bras de Balsamo.
L'étrange enchanteur, qui semblait s'être soumis tout le côté matériel de cette femme, mais qui luttait en vain contre le côté moral, souleva Lorenza entre ses bras et la porta sur son lit. Alors il déposa sur ses lèvres un long baiser, tira les rideaux de son lit, puis ceux des fenêtres, et sortit. Quant à Lorenza, un sommeil doux et bienfaisant l'enveloppa comme le manteau d'une bonne mère enveloppe l'enfant volontaire qui a beaucoup souffert, beaucoup pleuré.